Phil PM, l'international. Loïc Tassé.
Jeff Sessions.
He's fired.
Ouais, c'est ça. Ça, c'est notre Donald qu'on aime tant, qui a mis à la porte son ministre de la Justice, 24 heures, 48 heures après les élections de mi-mandat. Bye bye, Jeff. Loïc Tassé, bonjour.
Bonjour, Bernard.
C'est un petit peu annoncé. Hein? On savait qu'il s'aimait plus beaucoup. Il trouvait que Jeff Sessions, dans le fond, ne le protégeait pas suffisamment, notamment contre l'enquête.
Il ne le protégeait pas du tout parce que Jeff Sessions, manière très honorable, s'était récusé en disant « Moi, je suis un farouche partisan de Donald Trump, donc je ne peux pas présider cette enquête-là. Je vais laisser le secrétaire général présider tout ça. »
On parle de l'enquête du FBI.
On parle de l'enquête de Mueller.
Sur Donald Trump.
Oui, exactement. Sauf que aujourd'hui, il n'y a pas juste renvoyé Jeff Sessions. Il a nommé comme directeur intérimaire Matthew Whitaker. Et Matthew Whitaker, c'est quelqu'un qui, en août 2017, dans une lettre à CNN, avait écrit que Mueller allait trop loin dans son enquête et que Mueller ne devait surtout pas enquêter sur les actifs financiers de Donald Trump, sur sa compagnie, sur les liens qu'il pouvait avoir à l'étranger, notamment donc avec les Russes.
Donc c'est pour ça qu'il a été nommé.
Il vient d'être nommé là. Et les démocrates, là-dessus, sont déchaînés. Ils disent, écoutez, là, on est en train de... C'est une atteinte à la liberté, c'est une atteinte aux institutions de justice. Qu'est-ce que Trump fait là? Parce que en effet, le nouveau directeur par intérim, mais il peut être longtemps par intérim, il peut interdire à Mueller d'enquêter sur certains aspects entre Trump et la Russie. Il peut décimer complètement l'équipe de Mueller s'il veut. Il peut enlever tous les gens qu'il veut de cette équipe-là. Il peut couper le financement à Mueller. Il peut empêcher Mueller de, par exemple, convoquer Trump pour un interrogatoire ou n'importe quel autre témoin. Il pourrait même aller jusqu'à renvoyer Mueller. Mais là, il faudrait qu'il prouve que Mueller a eu une mauvaise conduite. Mais qu'est-ce que c'est une mauvaise conduite? Mais ce qu'il peut faire surtout, et moi je pense que ça s'oriente vers ça, c'est de garder secret le rapport de Mueller. Il pourrait décider de ne pas le sortir.
Ben voyons donc.
Oui. Et en théorie, la Chambre des représentants pourrait exiger le rapport.
Mais là, ils sont majoritaires, les démocrates.
Oui, mais à ce moment-là, Trump pourrait aller devant la Cour suprême et dire « Non, c'est un privilège du pouvoir exécutif. Bonne chance. » Et ça va prendre du temps.
J'allais dire, ça, il peut faire durer le plaisir.
Ah oui. Ah oui.
Et pendant ce temps-là, on ne sait pas ce que Mueller a trouvé.
On ne sait pas ce que Mueller a trouvé, mais on se doute que Mueller va avoir les mains liées avec ce nouveau directeur par intérim.
Mais oui, Whitaker, il est par intérim, justement. Il peut être par intérim pendant combien d'années?
Jusqu'à ce qu'on trouve au Sénat quelqu'un pour le remplacer.
Puis le Sénat est contrôlé par les Républicains.
Par les Républicains. Et en fait, il a 210 jours par intérim, mais ça peut être renouvelé s'il y a quelqu'un qui est devant le Sénat et puis qu'on ne trouve pas la personne. Donc, ça peut durer très longtemps.
Dans le fond, là, Trump, en nommant ce gars-là, s'est probablement protégé jusqu'à la prochaine élection présidentielle.
Fort probablement. À moins que les démocrates... Écoute, on ne sait pas ce que Mueller va faire. Peut-être qu'il a déjà des résultats, Mueller. Peut-être qu'il va sortir des choses rapidement.
Mais tu viens de me dire que quand il va remettre son rapport, le rapport pourrait être...
Oui, mais est-ce que ça pourrait être coulé? Tu sais, il y a plein d'éléments
J'espère
aussi.
Que ça pourrait être coulé si jamais les institutions empêchent la justice de prévaloir.
C'est ça. Alors, tu as les intérêts des États-Unis contre les intérêts de Donald Trump. Et on va bien voir où les gens vont se situer là-dedans.
Bon, pendant ce temps, évidemment, on a vu cette altercation, que je juge violente, entre Trump et ce journaliste de CNN.
Verbalement violente, oui.
Verbalement violente, où Trump pointe du doigt et dit à la jeune femme qui est à côté, enlève-lui le micro. Oui. On va juste écouter un tout petit extrait, vous allez... Pour ceux qui l'ont pas entendu, là, comprendre la virulence de cet échange.
That's enough. Put down the mic. I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person.
OK, you are rude, terrible. Mm-hmm. Femme ta boîte.
Oui,
enlevez-lui le microphone. Ça, c'est le président des États-Unis.
Oui.
Allô, la liberté de presse.
Oui,
hein?
Il ne veut pas se faire poser de questions.
Alors là,
il y a une adjointe qui s'approche de lui pour enlever le micro. Et lui, il ne se laisse pas faire, il garde le micro.
Oui.
Elle essaie d'aller sous son bras. Évidemment, leurs bras se touchent à ce moment-là. Alors, la Maison-Blanche dit « Ah, mais ce journaliste a bousculé cette stagiaire. Il a été violent physiquement contre elle. Donc, on lui retire son accréditation. » là-dessus.
Donc, le correspondant de CNN à la Maison-Blanche.
Il a perdu son accréditation.
Il ne pourra plus faire son travail.
Non. Là-dessus, évidemment, c'est complètement fou à l'évidence. Là, on n'a qu'à regarder la vidéo, puis on voit bien qu'il n'y a pas eu de violence de la part du journaliste. Sauf que les deux bras se sont touchés, celui-là. Et donc, la Fédération internationale des journalistes demande à ce que la Maison-Blanche rétablisse son accréditation. Mais tout ça, ça se rajoute à la démission forcée de Jeff Sessions, à la nomination de Matthew Whitaker. Ça se rajoute, tout ça, à cette atmosphère que Trump entretient si bien à la Maison-Blanche.
OK. Parle-nous de cette controverse autour du maréchal Pétain en France. D'abord, refais-nous un petit cours d'histoire vite.
Le maréchal Pétain, c'est d'abord un grand héros de la Première Guerre mondiale. Il a joué un rôle très important dans la victoire de la France contre l'Allemagne. Ça aurait été très bien pour lui si ça s'était arrêté là. Malheureusement, il a aussi été à la tête d'un gouvernement de collabos durant la Deuxième Guerre mondiale, de collabos avec l'Allemagne nazie, donc de Hitler, et il a été pour cette raison-là, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, jugé pour haute trahison, et sa peine, qui était une peine de mort, a été commuée à l'époque par le général de Gaulle en détention à vie, et il est mort en prison, donc en 1951, à l'âge de 95 ans. Fin de l'histoire de Maréchal Pétain dans une capsule. Donc c'est un personnage sulfureux et à cause de sa collaboration avec l'Allemagne nazie, évidemment, on a pas mal oublié en France ce qu'il a fait pendant la Première Guerre mondiale. Mais voilà, ce week-end, on célèbre la fin de la Première Guerre mondiale et Macron a laissé entendre qu'il allait rendre un hommage à Pétain.
Parce que Pétain est un héros de la Première
Guerre
mondiale.
Comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors en France, ça a déchaîné les passions à gauche, à droite, au centre, partout, tellement que le gouvernement Macron a été obligé de rétro-pédaler, de dire « Non, écoutez, on va pas rendre dommage au maréchal Pétain particulièrement. » Mais en tout cas, ça a créé toute une controverse et c'était très, très maladroit de la part de Macron. Et il s'en sort pas encore de cette polémique, véritablement.
Mais c'est parce que Pétain, là, il a pas juste collaboré avec les nazis, il a collaboré à l'exportation à la... j'utilise le mauvais mot, là. Il y a eu des rafles de juifs français.
De juifs, d'homosexuels, de gitans.
Il l'a envoyé au camp de concentration.
Absolument. Et c'était le chef, donc, de ce gouvernement de l'époque, qui était le gouvernement de Vichy, qui était un gouvernement
de collaboration.
Tout simplement. Donc,
se fait qu'il n'a pas vu ça? Quel manque de jugement?
Il a laissé planer un doute. Et puis finalement, hier, l'Élysée a dit, vous savez, on s'est mal exprimé, etc. Mais écoute, le mal est fait. Et puis c'était sorti d'un... C'est vraiment assez incompréhensible qu'il n'y ait pas eu cette sensibilité-là. Il a dit, oui, mais c'est un héros de la Première Guerre mondiale. Ben oui, c'est un héros de la Première Guerre mondiale. Mais dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est un traître. Et malheureusement, la traîtrise efface l'héroïsme de la Première Guerre mondiale. C'est tout.
C'est un peu ce que Hollande a écrit, l'ancien président français, sur Twitter. Il a dit, écoutez, là, oui, il y a un acte isolé de bravoure, d'héroïsme. Là, je me souviens plus du mot qu'il utilise. Mais il faut regarder l'ensemble de l'œuvre. Et dans le cas de Pétain, c'est épouvantable ce qu'il a fait, là.
C'est clair.
Absolument épouvantable ce qu'il a fait. Je suis très étonné, moi, que Macron ait manqué de jugement à ce point. Comment ça se fait que les gens autour de lui et lui-même ne se soient pas rendus compte de la controverse et de la polémique qu'ils allaient causer en proposant ça, là?
C'est d'une grande maladresse et c'est encore d'autant plus maladroit que ça lui a pris beaucoup de temps avant de rectifier le tir.
Oui, exactement. Très bien, Loïc Tassé, je te remercie. On se reparle demain.
Absolument.
On parle à Paul Oud dans un instant. Le monde de Paul Oud qui s'amène donc.
98.5. Circulation.